Nous sommes au rendez-vous et nous savons très bien que vous y êtes aussi. Nous sommes au mercredi 21 février de l'année de grâce 2024. Il sonne 11h, passé de quelques instants sur la nouvelle génération. Merci de nous recevoir chez vous pour ce troisième numéro de l'émission Club de la Presse pour le compte de cette semaine. La mise en onde de l'émission de ce jour est assurée par Michel Vitogbe, Tomega, comme toujours, Jérôme Akoucha sur la mise en ligne. Je suis au micro, Pascal Lossou. Nos salutations fraternelles à tous ceux qui nous suivent à l'intérieur du pays grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nero, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Vous pouvez également nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales. Vous le savez très bien aussi, nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, c'est le décryptage, le débat, l'analyse et l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi. Confrères journalistes, nous sommes au mercredi. Vous savez que Fabrice Pétizi doit être là. Fabrice, bonjour.
Bonjour à toi et bonjour aux confrères ici présents. Je dis également bonjour à tous les auditeurs de Canal FM.
Abel, William, bonjour.
Pascal, bonjour. Bonjour à tous les confrères ici présents. Et bonjour à ceux et à celles qui écoutent Canal FM.
Jaloux de ces acquis, toujours commandant. Bonjour, Abbas.
Bonjour, jaloux de tous les acquis.
De tous les acquis, alors.
Mais, bonjour, bonjour et bonjour à tous les auditeurs et autrices de Canal FM qui nous suivent en ce moment.
Alors, nous sommes au mercredi. Vous savez que nous démarrons souvent avec santé. Nous parlons santé et santé-éducation. Surtout, nous faisons le décryptage de l'actualité qui traite alors de la santé avec santé-éducation. Abel, c'est vrai, vous êtes dans les kiosques ce matin. Je veux bien parler de votre journal santé-éducation dans les kiosques et les bacs ce matin. Alors, déjà, à la une de votre journal, je lis « Recette pour rajeunir un foie malade ». Vous nous proposez alors des recettes pour rajeunir notre foie.
Exactement. Le foie, cet organe très, très, très vital de notre système immunitaire, de notre organisme. Vous savez bien son rôle. Ça, il s'occupe de filtrer tout ce qui est mauvais et de ne garder que les bons nutriments et des aliments. Donc, lorsqu'on a un foie malade, on peut constater qu'on a une fatigue extrême. On va au WC, on constate qu'on a des selles noires et nos yeux, bien les yeux sont jaunes. Et également, on peut subir une perte de poids inexpliquée. Donc, c'est entre autres les symptômes d'un foie malade. Et quand ce n'est pas pris en charge rapidement, ça peut entraîner des tumeurs, une cirrhose. Donc, pour ne pas avoir un foie malade, mais pour rajeunir un foie malade, il faut toujours miser d'abord sur l'alimentation. Parce que, comme je l'ai dit auparavant, le foie s'occupe de filtrer en fait ce qui est mauvais et de garder les bons nutriments. Donc, il faut miser sur l'alimentation, éviter d'avoir une alimentation déséquilibrée et également, surtout, limiter significativement ou bien voire éviter l'alcool.
Éviter l'alcool, voilà. C'est très important. Donc, puisque l'alcool ne fait pas du bien au foie.
Exactement. Donc, voilà un peu quelques pratiques. Et dans le journal, on peut voir quelques recettes maison qu'on peut faire pour rebooster le foie parce que c'est un organe très, très vital. Et si on a des symptômes lié au foie, comme je viens de le dire, il faut toujours consulter un médecin. C'est vraiment important.
C'est vraiment important. Alors, vous vous intéressez à un autre organe de notre organisme, et c'est le cœur. Vous dites battement de cœur irrégulier. Que faire?
Oui, exactement. Le cœur, encore un organe important. Et souvent, ce genre de malaise, on trouve ça banal. On a des battements irréguliers. On trouve ça banal. On se dit, ça va passer, ça va passer. Mais attention, on constate que ceux qui ont ce genre de malaise, ceux qui ont ce genre de trouble du rythme cardiaque, ce sont des gens, au moindre effort, ils sont essoufflés. Au moindre effort, voilà, c'est l'essoufflement. Donc, c'est pas bien parce que ce genre de trouble peut conduire à un AVC tout à l'heure.
D'accord, ça peut conduire
voilà.
à un AVC.
Un AVC,
et,
voilà.
Nous sommes à un temps chaud. Il y a de la chaleur ces derniers temps. Vous nous conseillez alors de nous hydrater et vous avez des recettes également pour nous.
Pascal, si vous permettez, j'aimerais revenir sur le sujet
du battement de cœur.
Voilà.
Oui.
Donc, en fait, quelles sont entre autres les causes d'avoir un battement irrégulier du cœur? Ça, d'abord, la mauvaise hygiène de vie. Voilà. Manger trop gras, manger trop salé, manger trop sucré. Donc, ça aussi, ça peut provoquer des battements de cœur irréguliers. Donc, quand on constate qu'on a ce genre de problème, il faut voir un cardiologue. C'est eux qui sont spécialisés pour nous donner, en fait, un diagnostic précis et pour remédier à ça.
Mmh, voilà. C'est très important. Allez voir un cardiologue pour cela. Quand on sent un malaise lors du battement, alors pour ce qui concerne le battement du cœur, très important d'aller voir rapidement un cardiologue. Alors,
voilà.
Je parlais de la chaleur.
Exactement.
Ces derniers temps, oui, il y a des gens, même d'ailleurs, qui ne dorment plus dans leur chambre.
Voilà.
Ils préfèrent dormir même d'ailleurs, comment l'appelle-t-on, à ciel ouvert. Dites-nous, vous avez un conseil même d'ailleurs pour nous, hein, pour nous hydrater.
Oui, exactement. Il fait chaud. Et quand il fait chaud, on a des difficultés à se concentrer. On a des difficultés à dormir, comme vous le dites, la nuit. Et en réalité, il y a des personnes, il y a des cibles plus vulnérables. Dans ces périodes de chaleur, je parle des enfants, je parle des nourrissons, je parle des personnes âgées et des malades chroniques. Donc, ces personnes sont très vulnérables dans ces périodes de chaleur. Donc, il faut beaucoup les assister, il faut que leur prise en charge soit vraiment efficace et on conseille de bien s'hydrater, en fait boire suffisamment de l'eau. Pourquoi? Parce que comment boire de l'eau en fait? Il ne faut pas boire d'un seul coup, mais il faut boire de petites gorgées.
Quoi, il y a une manière
voilà, de boire une manière, de l'eau. En fait. Il faut boire de petites gorgées tout au long de la journée. Donc il faut éviter l'alcool. Il faut éviter l'alcool et attention également aux boissons énergisantes et sucrées et limiter peut-être le café ou bien le thé. C'est-à-dire l'eau est la meilleure boisson et on peut recommander aussi l'eau de coco qui est riche en nutriments et qui peut aussi permettre d'avoir un regain d'énergie et cette eau de coco aussi permet de bien s'hydrater. Donc voilà un peu quelques recommandations concernant qu'il faut faire, mais qu'il faut adopter pendant ces périodes de chaleur.
D'accord. Voilà. Alors, c'est vrai, pour finir, il y a une conception populaire que nous avons. On dit souvent que le citron absorbe alors le sang. Aujourd'hui, dans votre journal, vous êtes revenu sur le sujet et vous dites plutôt que c'est le contraire. Le citron n'absorbe jamais le sang.
Exactement. Le citron n'absorbe jamais le sang. Ça, c'est dans la conception populaire, c'est ce que les gens disent. Par exemple, en hiver, on dit si citron si on roule la main, mais donc, or que c'est faux. En fait, pourquoi il a dit ça? C'est à cause de son aspect acide. Or que, en réalité, d'après plusieurs recherches prouvées, en fait, le citron est un bon fruit contre l'anémie. Voilà. Pourquoi? Parce que le citron est riche en vitamine C et ce fruit est riche aussi en fer. Donc, en réalité, comme le citron contient du fer, ce minéral est indispensable pour la production des globules rouges, pour la production du sang. Donc, le citron est utile pour aider l'organisme à absorber le fer là. Donc, et pour absorber ce fer, ça dit, il le fait grâce à la vitamine C. Voilà.
Alors, tous ces sujets dont vous venez alors de faire cas, c'est à retrouver alors dans votre journal paru aujourd'hui. Et c'est à quel prix? Et si nous voulons également l'avoir en PDF, comment s'y prendre?
Santé éducation est déjà dans les kiosques, version papier au prix de 1000 francs, version numérique, le PDF, sur notre site www.santé-education.tg. Et on peut nous contacter sur le numéro 96 14 97 97.
Merci beaucoup Abel d'être passé dans cette émission. Ça fait toujours plaisir d'être avec vous pour parler de la santé et aussi de l'éducation. Bien sûr, la santé, comme on le dit d'habitude, la santé n'a pas de prix. Il est très important de préserver même d'ailleurs cette santé à tout prix. C'est très important. Merci d'être passé. Alors, chers confrères, bonjour. Alors, il y a Sylvestre Béni qui nous a rejoint. Sylvestre, bonjour.
Oui, bonjour Pascal et bonjour à toutes et à tous.
Voilà. Alors, je voudrais qu'on démarre lors de ce matin avec ce sujet qui est déjà sur les réseaux sociaux. Nous en parlions même d'ailleurs hier. Et beaucoup de journaux sont revenus alors sur le sujet. Hein, je vais bien parler alors de cette question d'insécurité alors qui prévaut au niveau alors de Sotobois. Et Sylvestre, vous êtes revenu sur le sujet. Vous dites crime rituel. Saison 3, Sotobois, curieux, silence des gouvernants. Alors, il y a Triangle des Enjeux qui est aussi revenu alors sur le sujet. Triangle des Enjeux qui écrit à sa une série d'assassinats mystérieux à Sotobois, les habitants dans une peur bleue. Alors, Fabrice, quand on voit ces titres, on voit aussi la situation, ce qui se passe au niveau de Sotobois, on doit s'inquiéter.
Oui, bon, c'est vrai que je n'ai pas abordé personnellement le sujet, j'ai lu depuis le week-end dernier qu'il y avait des soucis à Sotobois et je m'en tiens juste à ce que j'ai pu lire sur les différents sites qui ont rapporté l'information jusqu'à ce jour. Je ne sais vraiment pas de quoi il est effectivement question, je n'ai pas vraiment fouiné autour de cette question au niveau de Sotobois.
D'accord. Et ce qui est sûr, il y a Sylvestre qui en a parlé, qui a abordé le sujet. Sylvestre ?
Oui, effectivement. Effectivement, nous avons eu l'information, d'abord par le fait donc, des réseaux sociaux, mais jusqu'à hier tard, je crois qu'un confrère a pu véritablement échanger avec le préfet, qui a donné, du moins ce qui a élucidé, qui a donné donc plus d'éclaircissement sur le phénomène, donc que c'est réel, c'est pas un phénomène inventé. Il y a véritablement donc ces crimes là qui sont commis donc dans la zone, sinon dans la région, où des femmes, on parle donc de 6 femmes et un garçon qui ont été donc lâchement assassinés. Et je crois que au cinquième cas, la population voulait véritablement en savoir davantage en allant donc vers le préfet pour que des dispositions soient prises, mais je crois qu'ils n'ont pas été bien accueillis avec des militaires et tout. Donc, c'est vrai que le calme est revenu dans la région, ou du moins dans la zone. Jusqu'au samedi, on parlait encore donc, d'un septième cas. Donc, nous nous sommes dit qu'en fait, un seul Togolais assassiné est déjà une victime de trop, est déjà une victime de trop pour la nation. Et donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Je crois que c'est assez alarmant que les gouvernants puissent communiquer là-dessus, parce que jusqu'à l'heure où nous parlons, jusqu'à 11h14, je crois qu'il n'y a que le préfet pour l'instant qui a communiqué par le bien donc de nos confrères Gapola pour une lettre Thierry Afanoukou qui a pu avoir donc le préfet. Donc on estime que et du moins les gouvernants, c'est-à-dire les premiers responsables donc du pays puissent communiquer.
Oui, Sylvestre, sur ce point, c'est vrai, nous étions même d'ailleurs en contact avec Thierry hier, oui. Et même d'ailleurs nous avons appelé aussi le préfet. Le préfet de la localité qui n'a pas voulu alors s'expliquer ouvertement ou officiellement sur le sujet, puisqu'il n'a pas eu alors d'autorisation de son hiérarchie, c'est-à-dire du ministre de l'administration territoriale. C'est vrai, quand on suit l'événement ou cette situation, alors c'est curieux, tel que vous le dites, alors le silence alors des gouvernants.
Justement, c'est curieux parce que je crois que le préfet est sous donc la tutelle donc du ministre de l'administration territoriale, et donc lorsque on annonce que dans une république il y a 7 Togolais qui ont été assassinés dans des conditions effroyables, je crois que c'est assez suffisant. C'est assez suffisant qu'on puisse communiquer. Même déjà, je l'ai dit donc en ouverture, que même déjà un seul Togolais qui assassine dans ces conditions-là, c'est déjà une victime de trop pour qu'on puisse communiquer. Comparaison n'est pas raison, certes, mais lorsque vous voyez peut-être dans certains pays comme la France par exemple, on dit un Français pris en otage ici quelque part. Vous verrez quand même toute la réaction donc de l'exécutif. On communique même les familles donc des otages sont reçus à l'Élysée et tout ça. C'est vrai que nous ne demandons pas qu'on fasse pareil. Chaque pays a ses réalités, certes, mais lorsque on parle donc de décès juste à 7 cas et qu'il n'y a pas donc de réaction, je crois que c'est une curiosité. Et là, nous parlons déjà de saison 3, puisque ce n'est pas la première. Hein. Il y en a eu déjà en 2012, on a connu donc ce phénomène dans la zone donc d'Aguanivé. Hein, on a vu la manière dont tout cela s'est soldé. Après, il y a eu en 2020, je crois qu'il y en a eu à Blita, où des mineurs ont été assassinés presque dans les mêmes conditions. Mais si, encore une troisième fois, et que ça se répète presque non loin donc de Blita, c'est-à-dire à Sotoubois, et presque dans les mêmes conditions, je crois qu'il y a lieu de s'interroger.
Il y a lieu de s'interroger. Nous sommes rejoints par notre confrère Mamadou Diouf. Mamadou, bonjour.
Bonjour.
Merci alors d'avoir répondu à notre invitation. Et nous allons parler Sénégal dans cette émission d'aujourd'hui. C'est pour cela même d'ailleurs que nous vous avons invité. Nous en parlerons bien évidemment. Et alors, Abbas, c'est vrai, pour cette question, surtout alors d'insécurité à Sotoubois, vous avez titré aussi sur le sujet, vous dites « Série d'assassinats mystérieux à Sotoubois, calme précaire et peuple sur la ville ». Finalement, oui, il y a ce calme précaire sur la ville tel que vous l'écrivez ce matin, mais il est très important que les populations soient élucidées sur ce qui se passe.
Oui, c'est ce qu'on veut, et c'est pour cela qu'on craint la situation. Il y a désormais une panique qui règne même à Sotoubois, même au niveau des autorités locales de Sotoubois, il y a une panique, parce que cette panique a fait que quand les familles, le préfet lui a parlé des familles qui venaient le voir, si c'était des familles qui venaient le rencontrer et qu'il n'était pas sur les lieux et qu'il a nommé, il n'y a pas le secrétaire général de la préfecture pour recevoir les gens. Il pouvait donner des consignes pour qu'on reçoive les gens et qu'on leur dise le calme, que nous sommes sous le dossier, on va gérer ça, on va assurer votre sécurité. Ça n'a pas été le cas. En lieu place de ça, on dit qu'on est allé barricader la voie. Et on envoie le régiment interam pour réprimer la population et la marche. Ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, cette affaire a commencé, ce n'est pas le dimanche seulement. C'est depuis janvier. Depuis le mois de janvier qu'on a commencé par tuer les femmes. Et dans les mêmes conditions, on les mutile. Eux, on enlève leur sein, leur partie intime, tout ça là, on les mutile. Depuis janvier jusqu'au cinquième, qui a provoqué la colère des populations.
Ah ben, le préfet, on était en contact avec le préfet hier et il nous rassurait qu'il n'y a pas de mutilation.
Mais les témoignages qui sont passés par là, il n'y a pas de mutilation. Qu'est-ce qu'on fait avec les corps? Quand les gens vont venir devant, vont découvrir les corps dans les buissons. La dernière victime qui est allée chercher du fagot de bois qu'on a tué, c'est pas dans les buissons, on a mutilé. Il y a la sixième personne qu'on a retrouvée, qui est allée chercher de l'eau, qu'on a mutilée. Et on l'a retrouvée dans les buissons. Et depuis janvier, on ne retrouve pas les responsables, on ne retrouve pas les auteurs plutôt de ceux-là qui occasionnent ces crimes. Mais pourquoi ça se passe ainsi? Et que ça c'était aucun communiqué. Normalement, on devait avoir un communiqué peut-être du ministère de la Sécurité ou du ministère de l'Association territoriale pour rassurer les uns et les autres que les choses sont en train d'être organisées pour voir quels sont ceux qui sont en train de commettre ces crimes crapuleux et mystérieux. Puisque quand les gens commettent, et c'est en pleine journée que ça se passe, ce n'est pas dans la nuit, c'est dans la journée que ça se passe. Et on n'arrive pas à mettre la main sur ces criminels-là. Et ce n'est pas normal. Donc, et le communiqué, normalement, le préfet, moi, j'ai entendu lui quelque part, il a et qu'il revenait de Lomé, il est arrivé à Lomé. Il a rappelé la famille a refusé de revenir et la famille est allée se mettre sur la voie publique pour bloquer la sécurité. Et c'est ce qui a amené les forces de sécurité. Les forces de défense qu'on a envoyées sur les lieux réprimés, on devait les balancer dans les lieux-là pour aller circuler les coins et voir s'ils peuvent retrouver ces messieurs. Peut-être qu'ils sont dans le coin. Et puis ça se passe, c'est à l'est de la ville de Sotoubois.
Oui. Fabrice, c'est vrai qu'il y a d'aucuns hein, qui, déjà dans l'émission d'hier, je me souviens, il y a quelqu'un qui nous a appelé même de Dapaon et qui nous dit que mais on peut également réfléchir à une poche à l'heure de terrorisme sur ce coup.
Oui, je crois que peut-être c'est ça qui explique le silence pour l'instant des autorités, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore cerné exactement ce qui se passe, parce que quand il y a des crimes qui s'enchaînent, il faut chercher à savoir est-ce que ces différents crimes sont liés, quel est le mode opératoire, est-ce qu'il est identique, est-ce que c'est un tueur en série qui est en train d'opérer. Je crois que tous ces éléments-là, il faut les avoir, parce que parfois aussi, quand on dit de communiquer, quand on communique, il faut dire quelque chose. Quand vous n'avez aucun élément encore sous la main et vous communiquez, bon, vous communiquez quoi? Ça aussi, il y a. Mais peut-être qu'on peut faire un communiqué pour dire qu'il y a, on a retrouvé un corps, ceci ou cela. Maintenant, il faut poursuivre les enquêtes.
Mais oui, Fabrice,
à part le préfet, il aurait fallu quand même qu'on entende peut-être la gendarmerie dans la zone pour voir exactement, puisque c'est eux qui font les enquêtes préliminaires et tout cela. Est-ce que c'est le même mode? Par exemple, à l'époque, lorsqu'on a eu l'histoire des cas de filles au niveau de Lomé, on avait constaté que on retrouvait les corps presque au même endroit et le mode opératoire était presque le même. La personne repartait toujours avec les parties génitales des filles tuées et tout cela. Et là, quand c'est comme ça, là, il y a une alerte quand même pour dire que, bon, il y a quelque chose. Maintenant, dans quel timing? Je crois qu'il y a encore beaucoup d'éléments. C'est pour cela que je veux pas vraiment m'aventurer.
Oui, je te comprends parfaitement. Maintenant, c'est vrai que ce n'est pas aujourd'hui que cela a commencé. Et ça a commencé depuis janvier, tel que Abbas le dit tout de suite. Alors, c'est vrai, au temps du général Yak, on se souvient que dans les jours, les prochains jours même d'ailleurs, automatiquement, il y a un communiqué qui nous rassurait, qui rassurait les populations. Mais aujourd'hui, au moins, il faudrait quand même qu'on rassure les populations sur un certain nombre de choses.
Oui, ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire même la communication que je vois dans ce sens, c'est au moins, puis c'est jusqu'aujourd'hui, je crois que c'est les journaux qui ont relayé qu'il y a, il y a des assassinats. Il n'y a pas un communiqué officiel pour dire, à moins que je ne me trompe.
Non, pour le moment, rien comme
ouais, donc,
rien
au d'officiel. Moins, sur ce coup, au moins on peut faire un communiqué, même si c'est un seul mot pour dire qu'on a retrouvé un mort dans des conditions tant. Bon, ça, c'est ça. Maintenant, est-ce que c'est terroriste? Est-ce qu'il faut lier ça au terrorisme? C'est un crime crapuleux? Tous ces éléments-là.
Ou c'est un crime rituel?
Ou si c'est des crimes rituels? Tout ça, il faudrait une enquête de la gendarmerie pour essayer de rapprocher les différentes victimes qu'on a retrouvées pour voir si c'est pratiquement la même. Mais en même temps aussi, il y a un souci aussi de ne pas provoquer une certaine psychose. Ça aussi, il faut savoir gérer aussi cette situation. Donc, c'est quand même un peu délicat. Mais dans la mesure où aujourd'hui, on en parle et il y a les rumeurs qui sont en train de prendre le pas, je crois qu'il est important quand même qu'il y ait une source officielle qui puisse plus ou moins situer les uns et les autres sur ce qui se passe exactement là-bas. Parce que en off aussi, on a cité aussi, ça aussi c'est des éléments qu'on n'aborde pas, sur une catégorie d'individus qui sont qui pratiquent une activité qu'on reconnaît, les bouviers. Il y a aussi certains qui ont sorti également cette piste-là. Mais tout ça, là, il faut avoir les éléments avant d'en parler, d'où la délicatesse de la question.
Oui, Sylvestre, le préfet nous a rassuré qu'il y a une enquête qui est en cours, mais est-ce que ça ne prend pas du temps?
Oui, ça prend du temps, parce que quand le préfet nous dit qu'il est à Lomé, je crois qu'on parlait donc de cinquième cas, il n'est pas à Lomé pendant tout ce temps. Hein, voyez-vous, c'est vrai que nous sommes victimes donc des institutions djihadistes ou terroristes, c'est selon. Mais lorsque on parle donc de mutilation donc des victimes et que leurs parties génitales sont souvent donc apportées par les assassins ou les bourreaux, je me dis que on connaît un peu le mode opératoire donc des terroristes. Aucun terroriste ne va peut-être tuer. Bon, selon ce que nous voyons jusqu'à présent, on n'a jamais eu dit que les terroristes ont massacré des gens dans une région et puis l'ont enlevé leur partie intime. Je crois que en le faisant, ce serait haram, je ne sais pas, voyez-vous. Donc là, je crois que c'est vrai, on peut également aller sur cette piste-là, mais je crois que la piste donc des crimes rituels doit être beaucoup plus privilégiée. Maintenant, l'autre chose qui est importante et que je veux bien souligner, c'est-à-dire que nos préfets qui sont souvent à l'intérieur du pays, à chaque fois qu'il y a manifestation, on fait venir donc des militaires. Or, le militaire en soi n'est pas formé pour la sécurité. Voyez-vous, le militaire en soi, ce sont quand même des gens qui sont formés pour défendre le pays en cas d'agression extérieure. Maintenant, une manifestation où généralement on envoie des militaires, vous verrez que si le truc donc de l'événement ou la manifestation donc de Sotoubois avait peut-être duré dans le temps, on aurait déjà attendu qu'il y a déjà une victime, peut-être par balle ou tout ça, parce que le militaire, lui, c'est-à-dire qu'il ne va pas vous dire, comme le font peut-être les policiers, hein, qui étaient là-bas, et on ne veut plus, on vous lance des gaz. Ils viennent, c'est avec des armes. Et puis, ils sont formés pour défendre. Donc, ils n'hésiteront pas à appuyer sur la gâchette. C'est pourquoi, généralement, nos préfets qui sont à l'intérieur, s'il y a des manifestations, je crois qu'il y a une gradation au niveau donc de la sécurité. Vous envoyez la police, si la police est dépassée, on envoie donc la gendarmerie, qui est un corps hybride. Et après, si la gendarmerie est dépassée, on envoie donc l'armée, c'est-à-dire les militaires. Mais tout de suite, envoyer les militaires, très souvent, pour les manifestations internes dans les zones-là, je crois qu'il faudrait qu'on puisse également raison garder. Parce que généralement, ça crée souvent des incidents.
Je crois que là aussi, il faut faire extrêmement attention, parce qu'il ne faut pas confondre Lomé et les autres localités de l'intérieur. Quand vous parlez de gendarmerie, allez dans les villes comme ça, on va vous montrer la brigade de la gendarmerie. C'est de quelques éléments. Parfois, vous comptez, vous avez sous la main. Donc, parfois aussi,
c'est l'occasion.
Donc,
c'est
l'occasion d'en créer. Il faut régler peut-être le problème en amont. Parce que très souvent, on a toutes les structures, les équipes et autres. Mais ce qu'on appelle parfois les postes les brigades de gendarmerie à l'intérieur, à les voir même de loin, vous sentez quand même qu'ils ne sont pas suffisamment nombreux en effectif. Et donc pour une manifestation, je ne dis pas d'envoyer forcément les militaires, mais je dis tout simplement que peut-être que le problème qu'il faut régler, c'est de voir généralement les effectifs que nous avons dans ces lieux-là. Mais puisque c'est un des lieux où généralement on a l'impression que rien n'arrive, comme souvent, parfois c'est juste des dissuasions qu'on a. Mais bon, si on fait venir les forces de défense et de sécurité, c'est pas leur rôle, la sécurité intérieure. Mais je crois que le problème qu'il faut peut-être régler, c'est d'étoffer les effectifs pour qu'effectivement, s'il y a de ces situations-là, on ne soit pas obligé peut-être de vider l'écran, mais de recourir aux forces de sécurité composées souvent de la gendarmerie et de la police. Mais comme on le dit, on a vu, vous vous souvenez de Niamtougou, où en quelques secondes, les gens sont allés balayer toute la gendarmerie. Les gens, je crois qu'en 2013 ou 2012, une simple manifestation, on va... tout le poste, tous les gendarmes prennent la clé des champs. Donc, ce qui n'est pas le cas, par exemple, quand si c'est Lomé. Parce que là, il y a quand même des effectifs et tout cela et autres.
D'accord. On va quitter le sujet. On aborde un autre sujet. Je voudrais qu'on aborde le sujet des élections législatives et régionales qui nous attendent déjà le 13 avril prochain. Il y a beaucoup de journaux qui sont revenus sur le sujet également. Alors, il y a Triangle des Enjeux qui titre à sa une élections législatives et régionales au Togo, le dépôt des dossiers de candidature effectifs depuis lundi. Alors, Fabrice, vous nous dites plutôt qu'il y a le parti uni, le parti présidentiel qui est en route alors vers un congrès. Alors, et la machette, vous nous dites élection 2024, encore 8 jours pour la clôture des candidatures. Le Mania Libéré, Abbas, vous écrivez à la une de votre journal « Politique, élections législatives, décryptage du débat autour du découpage électoral ». Alors, c'est vrai qu'on a mené ce débat de découpage électoral de long en large, alors dans ce studio, mais tout compte fait, quand on suit les choses, on comprend tout simplement que la CENI se met au pas alors pour que ces élections se déroulent dans de bonnes conditions déjà le 13 avril prochain. Pas à pas, il y a aussi pas à pas, nous allons dire quand même que Abbas, que le 13 prochain, nous irons aux élections.
Oui, le 13 avril prochain, nous aurons les élections. C'est déjà engagé, puisque le dépôt des candidatures, c'est déjà depuis le lundi dernier. Et tout le monde s'affaire à être prêt par rapport à ces dépôts de candidatures. Le train est en marche.
Le train.
Comme Sylvestre Manchette l'a déjà dit, dans 8 jours, le dépôt des candidatures sera clos. Donc, ce qui veut dire que tout est engagé. Quand nous avons parlé de décryptage par rapport à ces élections, je sais que ce n'est pas un découpage électoral qui a été effectué, c'est une répartition des sièges. Parce qu'on est parti de 30 à 39 préfectures, circonscriptions électorales. Aujourd'hui, on a de 91 à 113 députés. Donc ces 113 députés, les sièges ont été répartis par préfecture. On ne peut pas parler de découpage encore. Donc tout le monde va s'apprêter pour occuper au moins, chaque préfecture a droit à 2 sièges, au moins, chaque préfecture. On est parti sur cette base géographique et démographique et certains critères. Donc aujourd'hui, tout le monde est prêt à y aller. Vous avez vu que le congrès du RPT,
l'UNIR
est en train de s'organiser.
C'est pas
il faut être en règle par rapport à ça, par rapport à ce scrutin. Et là-bas aussi, les candidatures seront aussi présentées. Tous ceux qui ont été retenus seront présentés à ce congrès de CARA qui aura lieu le 26 février prochain, le lundi 26 février prochain.
Sylvestre, déjà, quand on prend ces partis politiques et les différents partis politiques, il y a l'UNI qui sera au congrès, les partis politiques de l'opposition, vous avez l'impression qu'ils mouillent vraiment le maillot pour y arriver aussi?
Non, écoutez, je crois que bientôt, jusqu'au 26, quand on aura donc la clôture, on aura donc la liste des candidats. Je crois que ça va aller vite. Mais pour l'instant, chacun hésite donc à sortir sa stratégie. Vous voyez, donc si tu sors ta stratégie avant le match, on risque donc de contrecarrer pour te gagner à plate couture. Donc je crois que chacun joue la montre pour l'instant, attendant donc de voir donc les pions, les candidats que chaque parti donc va mettre dans telle ou telle région, et après chacun va sortir donc son artillerie. Mais je crois que UNI fait bien donc de faire son congrès, parce que nous l'avions rappelé ici, lorsque vous prenez la charte donc des partis politiques après donc la CENAP, il y avait quand même cette disposition là, l'article 37 qui donnait un moratoire donc à tous les partis politiques de se conformer, c'est-à-dire d'organiser un congrès au moins dans les 5 ans, avec des structures, avoir un siège avec des structures et tout ça. Et lorsque vous voyez dans la composition donc des dossiers de la CENI, il est bien dit que les partis qui sont en règle avec la charte des partis politiques, voyez-vous. Donc ça veut dire que les partis qui au-delà de 5 ans n'ont pas organisé de congrès et tout ça ne sont pas véritablement éligibles. Nous sommes d'accord, parce que si on dit se conformer, surtout que vous prenez donc la composition, je crois qu'il y a une ligne qui précise que les partis qui présentent donc les candidats et tout ça doivent être en règle avec l'achat des partis politiques. Donc ça veut dire que les partis qui n'ont plus organisé de congrès il y a 20 ans et que le siège c'est le président lui-même, ou bon, le secrétaire général c'est le président c'est lui-même, la trésorerie c'est le président.
Puisqu'il est le président fondateur.
Voilà, et puis le siège est dans son sac généralement, qui circule. Donc tous ceux qui sont dans ce cas-là ne sont plus donc des partis politiques illégalement constitués au Togo. Donc maintenant on aura bientôt une liste affinée, très près donc de ceux qui font donc le jeu politique, du moins les partis politiques qui sont légalement constitués et connus donc par le législateur. Maintenant, au-delà, tel que je le dis, on attend donc le 28 février, qui est donc à minuit, pour avoir donc, et puis déjà je crois que le février compte aujourd'hui 29. C'est une année. Mmh. Voilà. Donc, déjà, le 29, on aura la liste et puis, bon, on aura assez plus de débats sur les personnalités qui vont incarner ou qui feront donc acte de candidature pour les législatives ou les régionales.
D'accord. Alors, Fabrice, je suis intéressé par ce titre alors de la dépêche. Hein, dépêche qui nous dit législative et régionale unies, grognent et manœuvrent sur fond de corruption dans le choix des candidats. Alors, finalement, on se dit que ce n'est pas seulement chez les partis de l'opposition qu'il y a de problèmes.
Oui, bah, est-ce qu'il y a, il y a une structure ou un homme sur cette terre qui n'a pas de problème?
On dirait tout simplement
la crise. On dirait tout simplement la vie, c'est des problèmes. Mais là où la différence existe, c'est la manière dont les gens gèrent leurs problèmes. Et voilà. Chaque parti également gère ses problèmes. Bon, ça, c'est la dépêche qui en parle. Il y a des gros. Mais ce qui est sûr, il y a de fortes chances quand même qu'il y ait des bousculades au niveau du NIR pour le positionnement des candidats. Il y a du monde, ils ont du monde, ils ont beaucoup de compétences. C'est le parti présidentiel, n'oubliez pas. C'est au même moment où là-bas ça se bouscule sur les postes de candidature, il y a des partis qui font la cour aux gens pour étoffer, pour constituer leur liste. Mais vous allez voir, quand on va sortir la liste des candidats, vous allez voir des confrères devenir candidat sur des listes électorales, mais qu'ils prennent soin de rendre leur carte de presse.
C'est très important.
Donc c'est un peu cela. Au même moment où dans un parti il y a du monde, on se bouscule, il y aura forcément des gens qui seront laissés sur le carreau, frustrés et tout cela. Mais comme je le dis, c'est la capacité à gérer ce problème là qui diffère d'un parti à un autre. Parce que ailleurs, ça peut se passer, quelqu'un va sortir créer son parti. Parce qu'on ne l'a pas positionné, ou choisir d'aller en indépendant parce que le parti ne l'a pas cautionné et tout cela et autres. Donc c'est possible que il y ait des bousculades, notamment au niveau des partis qui sont très représentatifs pour positionner des gens parce qu'il y a beaucoup de compétences et autres. Maintenant, parlant du congrès d'Unir, oui, il se tient le 26, je crois que c'est presque précis, à Cara, et curieusement un lundi, jour ouvrable. Mais il faut aussi dire que Unir, ce sera le deuxième congrès depuis 10 ans d'existence, hein,
oui,
parce qu'après la création du parti en 2014, il a fallu attendre
2017
pour voir le premier congrès, et aujourd'hui c'est le deuxième qui se tient, donc le 26 février prochain. Bon, on verra bien.
On verra bien. Abash, c'est vrai, il y a certains analystes politiques qui disent aujourd'hui, hein, par rapport à l'opposition, qui parlent encore du regroupement, hein, de comment l'appelle-t-on, de l'opposition, pour aller même d'ailleurs à ces élections législatives, et que c'est ce qui pourra même d'ailleurs avantager plus l'opposition.
Oui, il y a beaucoup qui appellent l'opposition à s'unir. Il y a eu une organisation de la société civile qui demande à l'opposition de s'unir pour avoir... C'est par rapport à toutes ces éducations que nous donnons, c'est-à-dire que vous allez voir qu'il y a des partis qui auront des difficultés à positionner les candidats. Et de l'autre côté, pour aussi prendre en compte tous les bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire, pour quadriller les bureaux de vote, un parti politique de l'opposition n'a pas ces moyens-là pour être sur tous les bureaux de vote de Lomé à Saint-Cassé. Donc, lorsqu'il y aura ce regroupement-là, peut-être que s'il y a un parti comme ADI et un parti comme l'ANC se retrouve, ou un autre parti qui se retrouve, peut-être que ADI peut positionner ses éléments dans les savanes, et ceux qui n'ont pas les moyens au niveau de la région maritime, on pourra aussi le faire. Donc, c'est pour cela que certains sont en train d'appeler à l'union de l'opposition pour qu'au moins ils puissent avoir le temps et les moyens humains de pouvoir quadriller tous les bureaux de vote, d'avoir des gens, des représentants dans les bureaux de vote. C'est certainement ça. Mais seulement que ce serait un peu difficile. Puis il y a certains qui disent que nous, on va aller seul à notre élection. On ne peut pas être associé à quelque chose.
Et si vous plaît, chers confrères, nous allons observer une pause, nous revenons. 93.5. Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse de ce mercredi et nous continuons le débat ici. Alors, c'est vrai, nous allons pour cette partie aborder la question alors du Sénégal. Alors, Mamadou Diouf, une fois encore, bonjour.
Bonjour.
Voilà, nous suivons de près l'actualité au Sénégal. On se souvient alors déjà de cette question de report de l'élection présidentielle qui devait normalement se tenir le 25 février prochain, mais finalement, par un décret, Macky Sall a envoyé, le président Macky Sall bien sûr, a renvoyé alors ces élections au 15 décembre prochain. Et finalement, c'est le Conseil constitutionnel qui dit plutôt au président Macky Sall que mais vous n'avez pas raison alors de le faire ainsi.
Tout à fait. En fait, le président Macky Sall a plutôt annulé le décret qu'il avait pris, appelant le corps électoral sénégalais à aller aux urnes le 25 février. C'est l'Assemblée générale l'Assemblée nationale plutôt qui par une loi a décalé, reporté les élections jusqu'au 15 décembre. Et quand le Conseil constitutionnel a été saisi par les partis qui sont concernés par l'élection présidentielle, le Conseil constitutionnel a désavoué le président de la République. Le Conseil constitutionnel a désavoué également l'Assemblée nationale en leur disant à tous les deux, vous ne pouvez pas amener ce report au niveau des élections en utilisant plusieurs arguments. Un des arguments qui était le plus évident, c'est que le report entraîne de façon automatique la prolongation du mandat du président de la République. Alors que, au niveau de l'article 31 de la Constitution du Sénégal, le nombre de mandats, la durée du mandat, la forme républicaine du Sénégal sont considérés comme des clauses qu'on ne peut pas réformer par des lois ou autres. Bon, les juristes parlent de clauses d'éternité. On a vraiment renforcé les choses sur ces questions de sorte que le président ou l'Assemblée ne peuvent pas venir toucher à la chose aussi facilement. Maintenant, cela fait qu'on est obligé aujourd'hui d'organiser les élections, en principe bien avant le 15 décembre, puisque c'est la décision qui a été prise par le Conseil constitutionnel.
Mamadou Diouf, est-ce que finalement nous dirons que le Conseil constitutionnel a sauvé la démocratie au Sénégal?
On peut dire que le Conseil constitutionnel a sauvé la démocratie au Sénégal, puisque si le Conseil constitutionnel avait suivi l'Assemblée ou le président de la République, mais on va s'interroger sur cette démocratie dont on parlait au Sénégal. Puisque quand on parle de démocratie, c'est vrai que ça ne se limite pas à la question électorale, mais la question électorale joue un rôle important quand on parle de démocratie. Comment un président de la République, fut-il un hyper-président, peut, parce que le jeu politique ne semble pas être en sa faveur, décider de reporter les élections pour se préparer davantage, pour pouvoir gagner les élections? Ça n'a
rien à voir. Mais finalement, sur le continent, c'est ce qu'on retrouve, Mamadou.
Oui, mais en fait, c'est tout le drame, parce que parfois, quand on parle, je dis, mais moi, je suis Sénégalais, j'ai vécu au Sénégal, je me suis battu en 88, en 93, on continue à se battre pour la démocratie. En fait, quand les autres nous considèrent comme une vitrine, ce n'est pas que nous sommes une vitrine, nous sommes une démocratie terminée, non. C'est que les gens regardent ce que nous avons et que eux ils n'ont pas. Par cela, il faut de nous une référence, alors qu'au Sénégal, moi depuis 88 où je suis dans ces combats, mais on n'a jamais cessé de se battre pour la démocratie, en considérant que ce que nous avons, ce n'est pas ça l'esprit de la démocratie. Souvent les textes sont là, mais l'esprit n'est pas là. Parce que la dernière élection présidentielle, mais on a écarté deux candidats. Cette fois-ci, on a écarté combien de candidats? C'est ce qu'on dit, mais comment un président peut choisir avec qui il va aller aux élections en faisant le soin de choisir ceux dont il est sûr qu'il peut les gagner et en écartant ceux qui pourraient éventuellement le gagner? On est dans quelle démocratie dans ces conditions-là?
Oui, Dieu, ce qui a été impressionnant, c'est que quand le président Macky Sall même d'ailleurs a fait sortir le décret pour reporter l'élection présidentielle, c'est pratiquement tout le Sénégal qui s'est érigé contre lui, avec la classe intellectuelle, la société civile. Comment ça s'est passé?
En fait, c'est très simple. Au Sénégal, nous parlons le Wolof. Donc celui qui n'est jamais allé à l'école, c'est exactement tout ce qui se passe. Et au Sénégal, les professeurs d'université sont tout le temps dans les médias pour intervenir aussi bien dans leur propre domaine en tant que spécialité que sur les questions nationales. Mais ça fait que n'importe quel Sénégalais est parfaitement informé de ce qui se passe. Vous avez plein de Sénégalais qui n'ont jamais lu la Constitution parce qu'ils ne parlent pas le français. Mais ils vont te parler de l'article 31, ils vont te parler de l'article 103, ils vont te parler de l'article 36 parce que les gens sont venus développer en langue qui lui permet de comprendre exactement ce qui se passe. Mais tout le monde s'est dit, mais attendez, ça sent le flou dans ce qui s'est passé. Imaginez, Karim Wade a été écarté, comme il avait été écarté d'ailleurs en 2019.
comme Khalifa Sall a été écarté en 2019, comme d'autres candidats ont été écartés en 2019. Pourquoi on n'a pas reporté les élections de 2019? Cette fois-ci, la lecture, elle est très simple. L'État sénégalais a tout fait pour que Sonko ne soit pas candidat. L'État sénégalais a tout fait.
Et Sonko, c'est lui qui dérange, c'est ça, finalement?
Pas lui seul, son parti également. Pour que son parti ne puisse pas être candidat, puisque le parti a été dissous. Mais malgré tout ce qu'ils ont fait, Diomaye est passé. L'État s'est entendu avec le PDS, c'est clair, pour que Karim puisse être candidat. Puisque le dernier dialogue, c'était clairement ça. Malheureusement, Karim n'est pas passé. Et il faut le dire clairement, Karim n'est pas passé par sa propre turpitude, par sa propre faute. Karim a joué en craignant de perdre sa nationalité française et de ne pas être candidat. Il s'y est pris tardivement. De sorte qu'au moment où il déposait sa candidature, quand il disait qu'il était exclusivement de nationalité sénégalaise, il a menti. Et c'est la deuxième fois qu'il ment, parce qu'en 2019, il avait fait exactement la même chose en déclarant qu'il est exclusivement de nationalité sénégalaise. S'il était exclusivement de nationalité sénégalaise en 2019, comment se fait-il qu'il renonce à sa nationalité française cette année encore? Ben, il y a tous ces éléments qui font qu'en fait, il ne doit pas se plaindre auprès de quelqu'un, c'est lui-même qui s'est créé des problèmes. Mais actuellement, on sent qu'il y a un lien, voire même un deal entre le Parti démocratique sénégalais, le parti au pouvoir actuellement avec sa coalition, puisque quand ils sont allés à l'Assemblée, c'est eux qui ont organisé le report des élections pour que Karim puisse rentrer à nouveau dans le jeu.
Est-ce que finalement, pour cette démocratie au Sénégal, bien évidemment, et vous avez été toujours cité comme modèle alors de démocratie, je veux bien parler alors du Sénégal, est-ce que finalement, tel que l'ancien président Barack Obama le disait, le président américain bien sûr, que l'Afrique a besoin plutôt alors des institutions fortes et non plutôt des hommes forts, et je pense que c'est ce que vous venez alors d'expérimenter.
Mais on a besoin d'institutions fortes pour une raison évidente. Quand on parle de démocratie, quand on parle de république, il y a trois institutions fondamentales qui constituent les trois pouvoirs. Le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Mais comme on le sait, quand on parle de démocratie également, c'est le pouvoir qui arrête le pouvoir. Les députés sont là pour empêcher au gouvernement d'amener le pays vers des lendemains qui sont des lendemains incertains. Et c'est ça qui crée ce principe que quand tu es élu sur la liste d'un parti, arrivé à l'Assemblée, on te considère comme un député du peuple, alors que tout le peuple ne t'a pas élu. Il y en a même qui ne voulaient pas te voir à l'Assemblée. Mais qu'est-ce que ces gens-là font? Mais c'est tout le contraire. Généralement, le député regarde qui l'a mis sur la liste. Certains même n'hésitent pas à dire que je suis le député d'eux, en citant la personne qui l'a mis sur la liste, en oubliant le peuple qui a voté pour qu'il puisse aller à l'Assemblée. Mais il n'y a plus de pouvoir là-bas. Sur le judiciaire, mais s'il n'y a pas cette indépendance de la justice, s'il y a une manipulation de la justice par le pouvoir exécutif, mais le président de la République devient quelqu'un qui est capable de faire ce qu'il veut et il n'y a aucune barrière devant lui. Mais regardez Trump, regardez ce qui se passe aux États-Unis. Le président de la République prend une décision, c'est un juge dans un État qui prend la décision contraire, qui suspend la décision du président de la République. Les pouvoirs sont indépendants. Mais c'est ça qui fait que quand on a des institutions qui sont fortes, mais même quand le président veut prendre des décisions qui ne vont pas dans l'intérêt du peuple, parce que quand on dit la loi, on dit que la loi est donnée au nom du peuple, mais l'Assemblée nationale ou bien le Conseil constitutionnel doit pouvoir, ou bien la Cour suprême quand il s'agit d'abus de pouvoir, prendre la décision qu'il faut pour ramener le président de la République à sa place. Parce que le président de la République a une place, il a des prérogatives, il n'est pas capable de tout faire parce qu'il est président de la République, quel que soit le pays d'ailleurs dans lequel où il est président de la République.
Le président de la République n'est pas capable alors de tout faire. Alors, Fabrice, c'est vrai, on a vu au Sénégal, tel que Mamadou l'a dit tout de suite, on a vu au Sénégal que la démocratie a été sauvée par le Conseil constitutionnel, on l'a vu, mais vous parlez plutôt alors d'une institution qu'on doit sauver aujourd'hui et vous dites qu'il faut sauver la CEDEAO.
Oui, il faut sauver la CEDEAO parce que la CEDEAO est en crise, la CEDEAO est en train de se désintégrer carrément avec les menaces venant de trois pays, notamment le Mali, le Niger et puis le Burkina Faso qui sont sur le point de créer une institution sous-régionale, l'Alliance du Sahel, avec trois pays, et donc je crois que ça casse un peu la volonté de l'intégration qu'incarnait la CEDEAO. Et c'est vrai, on sait comment on en est arrivé là, et je crois qu'aujourd'hui, il est honnête de reconnaître que la CEDEAO est en crise et cette crise-là n'arrangera personne. Il faut remobiliser les troupes et je crois que c'est ce que le président Faure et son homologue ivoirien ont tenté de faire en se rapprochant. Je parle de rapprochement parce que et quand vous prenez la CEDEAO aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a trois groupes de chefs d'État. Enfin, il y a deux groupes qui s'affrontent avec au milieu le président togolais qui semble un peu faire la part des choses. Parce que quand vous prenez la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin, quand vous avez vu leur position...
C'est une position tranchée.
Oui, les positions, le Nigeria un peu, et le Ghana, c'est des positions qui étaient carrément tranchées sur la question des putschistes au pouvoir, notamment au Mali, au Burkina Faso, et puis après le Niger. Et pendant ce temps, il y avait le Togo qui essayait d'appeler à une certaine raison gardée qui n'était pas suivie au départ, mais au finish, on se rend compte que c'était quand même la meilleure. En tout cas, aujourd'hui, on a l'impression que c'est Faure Gnassingbé qui a la possibilité d'aller partout sans avoir de problème à régler avec qui que ce soit. On se demande si aujourd'hui le président Ouattara peut aller au Mali. On connaît les antécédents. Est-ce qu'il peut aller au Niger? On connaît les antécédents. Mais quand vous prenez Faure Gnassingbé, c'est lui qui va partout. Il envoie des émissaires dans ces pays-là. Et il va également en Côte d'Ivoire. Il va partout. Et je crois que c'est la raison pour laquelle on est en train de faire de lui le facilitateur dans cette crise-là qui est née au sein de cette institution sous-régionale qui, ma foi, même si aujourd'hui on lui reproche beaucoup de choses, quand même est une chance pour l'Afrique parce qu'en réalité, même quand vous prenez aujourd'hui le développement dans les pays que nous prenons comme exemple, notamment l'Europe, l'intégration quand même est quelque chose qui est souhaité. Quand vous prenez l'Union européenne, il y a beaucoup de pays d'Europe qui se battent pour intégrer l'Union européenne. Alors, et quand vous prenez l'Afrique, c'est pratiquement l'organisation, malgré les critiques contre la CEDEAO, c'est l'organisation sous-régionale la mieux organisée. Elle est même mieux organisée que l'Union africaine qui pratiquement ne fait rien. Et donc, pour moi, je crois que c'est une bonne logique de tenter de sauver cette CEDEAO-là en essayant de comprendre également ceux qui tentent de se retirer, comprendre leurs préoccupations et voir comment trouver le juste milieu pour que l'organisation continue de fonctionner.
Sylvestre, pour sauver cette CEDEAO aujourd'hui, il semble que les positions tranchées, on doit également les modérer.
Oui, oui, mais est-ce que ce n'est pas déjà consommé? Parce que lorsque j'écoute le capitaine Ibrahim Traoré qui dit que c'est un chemin de non-retour, et lorsque vous voyez d'autres aussi qui disent que la CEDEAO c'est fini, oui, c'est vrai qu'on peut encore tenter de les faire revenir à la maison, si je peux le caricaturer cela ainsi. Mais à l'allure où les choses se passent là, je me dis que c'est presque consommé. C'est presque consommé puisque à leur niveau, au niveau donc de l'Alliance du Sahel, ça va vite. D'ailleurs, les ministres et les ministres des Affaires étrangères se sont retrouvés la dernière fois pour réfléchir sur comment harmoniser donc les tests au niveau donc de ces trois pays là. Le mal qu'on peut peut-être souhaiter, qu'on ne peut pas souhaiter, voilà, à la CEDEAO, c'est que si un quatrième pays s'ajoute, je crois que ce serait véritablement fini. Maintenant, si jamais ils ne reviennent pas, je crois qu'il y a quand même donc de fortes chances de continuer donc à coopérer avec ces pays-là. Il y a des coopérations bilatérales et tout ça. Les États peuvent se retrouver et signer donc un certain nombre d'accords si éventuellement ils doivent aussi se rendre service mutuellement. Donc pour l'instant on peut observons donc les
Abbas, c'est vrai que ce que les pays qui sont sortis alors de la CEDEAO décrit aujourd'hui, dénonce, c'est que c'est ces sanctions peut-être qu'ils qualifient même d'ailleurs d'illégales à leur endroit, surtout à l'endroit alors du Niger. Et aujourd'hui il est très important pour décamper surtout la situation, il est très important plutôt alors de lever alors ces sanctions.
Oui, il est très important. D'ailleurs, j'ai appris qu'il y a des démarches qui sont en train d'être faites pour que les sanctions soient levées. Ce que les gens dénoncent, on dit que la CEDEAO n'est pas la CEDEAO des peuples. Elle ne joue plus son rôle de défenseur des populations des peuples. Vous voyez, ces prises de position, lorsqu'il y a des choses qui arrivent, c'est la prise de position de la CEDEAO. Et par rapport aux également au Sénégal, c'était des prises de position mitigées qui ont été constatées. Donc aujourd'hui, si les gens sont en train de sortir, il faudrait que la CEDEAO fasse tout pour que tout le monde reste dans la famille. Et je pense que c'est ce que le chef de l'État togolais Faure Gnassingbé est en train de faire. Il a même eu à déclarer que la CEDEAO, comme les gens le décrit, la CEDEAO doit redevenir une CEDEAO des peuples pour donner confiance à ce peuple, pour que le peuple aussi ait confiance en cette CEDEAO. Et quand le peuple veut quelque chose, il faudrait que la CEDEAO puisse répondre à ses aspirations, mais pas être du côté de certaines situations qui n'arrangent pas la population. Donc, c'est ça qu'il faut revoir. Heureusement que nous avons le chef d'État togolais qui arrive à aller un peu partout pour au moins négocier, puisqu'il a dit qu'il va continuer ses négociations en tant que médiateur désigné de la CEDEAO. Il va continuer par aller vers ceux-là qui sont en train de se retirer pour au moins les ramener à la raison, si possible. Donc, le travail doit continuer et que la CEDEAO doit lever ces sanctions-là. Parce que ces sanctions, quand elles sont prises, ce n'est pas sur les autorités que ça pèse, c'est les populations qui en pâtissent. Donc, si on continue d'en tenir et d'entretenir ces sanctions, est-ce que c'est les chefs d'État qu'on traite de putschistes qui sont en train de souffrir? Or, quand vous allez actuellement dans les trois pays sahéliens, seulement les populations vont se plaindre qu'il y a les choses qui commencent par coûter cher, parce que le problème de ce n'est pas des pays qui sont à côté de la mer, c'est des pays des hinterlands qu'il faut. Donc on ne peut pas dire continuer par entretenir les sanctions. On espère que les démarches qui sont en train d'être faites pour lever les sanctions puissent aboutir pour que les choses, au moins les uns et les autres, viennent à la raison.
Mamadou, c'est vrai, quand on suit aujourd'hui l'actualité avec la CEDEAO, on comprend tout simplement que la CEDEAO va mal, il y a des soucis, de sérieux soucis dans la maison. Que faire aujourd'hui pour que, du moins, c'est qu'il y ait le calme dans cette maison CEDEAO?
Moi, je crois que sur ce qui concerne la CEDEAO, il faut être clair. On a une institution qui a sa place en Afrique de l'Ouest. C'est une des meilleures, pas en Afrique, mais au niveau du monde, en matière d'intégration. Il ne faut pas qu'on fasse l'erreur de jeter le bébé avec l'eau du bain. Pour moi, la CEDEAO est une institution pertinente. Ces textes sont là. Même l'AIS qui est en train d'harmoniser ces textes, vous allez voir, on va se retrouver avec une sorte de CEDEAO bis à trois. Parce qu'il y a un très bon travail qui a été fait sur cette question-là au niveau de la CEDEAO, et je n'ai jamais vu quelqu'un le contester. Maintenant, un des problèmes de la CEDEAO, c'est la crédibilité. Et la crédibilité, c'est la faute de nos chefs d'État. Parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Même ces chefs d'État qui ont sanctionné le Niger, le Burkina, le Mali, la Cour de justice de la CEDEAO a pris des décisions contre ces États ne l'ont jamais appliqué. Certains, comme le Bénin et la Côte d'Ivoire, à un certain moment même, avaient voulu préférer quitter la Cour de justice au lieu d'appliquer les décisions qui ont été prises par la CEDEAO. Mais si c'est les premiers responsables de la CEDEAO qui décrédibilisent la CEDEAO de la sorte, les populations vont penser quoi? La deuxième chose, parmi les instruments de la CEDEAO, il y a la prévention pour ces problèmes de crise. Quelle prévention on a vu? Le cas du Sénégal est là. Ils ont des instruments pour pouvoir résoudre ces problèmes. Aujourd'hui, quand la CEDEAO veut aller dans un pays, c'est les populations qui leur disent « nous ne voulons pas de vous ici, parce qu'on a déjà vu ce que vous avez déjà fait ailleurs et ce n'était pas le bon exemple. » Il faut qu'on soit clair en ce moment. Il y a des réformes qui sont nécessaires au niveau de la CEDEAO, mais il faut également que les chefs d'État soient conséquents par rapport à ce qu'ils disent de la CEDEAO.
Chers confrères, nous allons en arrêter là pour le débat, puisque nos auditeurs nous ont écoutés pratiquement pendant une heure de temps. Nous allons leur donner aussi la parole. Ils vont s'expliquer et s'exprimer alors sur les sujets débattus ici au Club de la Presse. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs. 93.5 Canal FM. Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse de ce mercredi. Maintenant, nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous contacter au 22 21 33 74 91 36 63 75. Il y a un auditeur qui se signale déjà.
Allô? Allô? Allô, bonjour.
Bonjour, Didier.
Didier.
Oui, Didier, bonjour. Comment
bonjour,
vous allez?
Fabrice, comment ça va?
Oui, Didier, allez-y.
Oui, bonjour, Fabrice. Et puis, j'envoie un bonjour au passage à M. Kanyao. Tu es à l'écoute, je l'envoie un bonjour.
D'accord.
Bon, moi, je voulais parler de la CEDEAO là. Vous savez, tout à l'heure, M. Mamadou a parlé des pays qui voulaient quitter, qui n'a pris jamais les décisions de la CEDEAO, en oubliant le Togo. Le Togo n'a jamais appliqué les décisions de la Cour de la CEDEAO. Il y a plein d'exemples. Les pays qui ont le plus discrédité la CEDEAO, c'est le Togo. On a vu ce qu'ils ont venu faire à la mort du président Adama ici. On a vu ce qu'ils ont fait tout récemment, au moment de la crise. Est-ce que si les gens là qui quittent la CEDEAO aujourd'hui là, s'ils sont conséquents avec eux là, ils ne doivent pas quitter. C'est là. Dans le AOS qu'ils sont en train de créer, là, il y aura des règles. Il faut qu'on applique les règles. Si quelqu'un se lève un jour parce que les militaires font un coup d'État et puis on ne doit rien dire, parce qu'on a fait un truc conscient quelque part et les gens ont supporté, ce n'est pas normal. Appliquons les règles que nous nous sommes données. C'est ce qui fait la crédibilité d'une organisation. Si vous faites le leur, vous ne les respectez pas. Comment est-ce que les trucs vont marcher? Regarde ce que le Togo a fait. Ils sont venus, au moment où la CEDEAO était venue faire les trucs ici, M. Fabrice et puis les autres applaudissaient. Maintenant, comme c'est les autres là, ils n'applaudissent pas. C'est ça le problème du Togo. Merci beaucoup.
Didier, merci. 22 21 33 74 91 36 63 75. C'est sur ces deux numéros que vous pouvez réagir dans l'émission Club de la Presse d'aujourd'hui. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, mes directeurs.
Oui, papa Sibiti.
Ah, merci. La CEDEAO, là, ceux qui l'ont créé, où sont-ils? Le général Yacoub Gon, on l'a appelé. Est-ce qu'il faut attendre l'éclosion avant de l'inviter pour qu'il nous dise l'intention dans laquelle lui et le général Yadema l'ont créé? La CEDEAO, elle existe, et puis on est en train de tuer les gens, les djihadistes. Pourquoi la CEDEAO? Combien d'États forment la CEDEAO? Ils ne peuvent pas entrer en jeu pour combattre les djihadistes. Ils n'ont qu'à nous laisser vivre librement, en paix d'abord, avant de penser. Le Niger, la Haute-Volta, excusez-moi, et le Mali, ils ont le droit de sortir, puisqu'ils n'ont pas de protection. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, papa Sibiti, pour votre réaction au Club de la Presse de ce mercredi. Allô? Allô, bonjour. 22 21 33 114 91 36 63 75. 22 21 33 114 91 36 63 75. C'est sûr, c'est deux numéros que vous pouvez.
Oui, on a été.
Allô? Allô, bonjour. Allô. Oui, allô, bonjour. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Allô?
Oui, décidément, il semble qu'il n'a pas de retour.
Bonjour.
Oui, bonjour. Comment
vous m'entendez
allez?
Bien?
Oui, je vous écoute.
Oui, alors, je voudrais intervenir.
S'il vous plaît, votre nom, c'est... Décidément...
Moi, c'est Edem. Mon nom, c'est Edem. J'appelle depuis la France. Je voudrais intervenir à propos de la CEDEAO. Vous voyez, comme le monsieur a dit tout à l'heure, moi, je pense que la CEDEAO n'a jamais été une CEDEAO des peuples. Pourquoi je dis ça? Parce que vous savez très bien que au sein de la CEDEAO, il y a un parlement. Bon, mais seulement ce parlement est composé de députés communautaires qui sont nommés par les différents États et non pas élus au suffrage universel direct, comme l'exigent pourtant les tests de la CEDEAO. Vous voyez? Et pourtant, l'exigence a été faite depuis 2009 pour que les députés du Parlement de la CEDEAO soient élus au suffrage universel direct par tous les peuples de la CEDEAO, des pays membres. Mais ça n'a jamais été respecté depuis 2009. Vous voyez? Donc moi, je pense que cette CEDEAO a perdu toute crédibilité auprès du peuple parce qu'elle n'a pas respecté ses propres tests. Donc à mon avis, cette CEDEAO n'a jamais été la CEDEAO des peuples et Malheureusement, comme nous pouvons le constater, elle est en train de mourir de sa belle mort. Il ne faut plus rien attendre de cette communauté parce qu'elle n'a aucun levier pour agir et elle a perdu toute crédibilité. D'accord. Voilà ce que je voulais ajouter à propos de la CEDEAO.
Merci
Ensuite,
beaucoup.
Par rapport à ce que le grand frère journaliste sénégalais a dit tout à l'heure, il est important pour que le jeu démocratique puisse fonctionner correctement dans un pays, qu'on ait des institutions fortes. Vous voyez? Et c'est très bien que nous puissions avoir l'exemple du Conseil constitutionnel sénégalais qui a dédié une décision du président de la République. Ça révèle que la démocratie est saine encore et sauve au Sénégal. Et il faudrait que tout cela se répète dans tous les pays de la communauté, d'accord, de la CEDEAO, pour que la CEDEAO puisse retrouver quelque chose, un minimum de crédibilité. Sans cela, nous ne pouvons que dire nos condoléances, hein, nos sincères condoléances à la CEDEAO, parce que la CEDEAO, dans la configuration actuelle, avec la sortie actée, ce n'est plus une question de, ce n'est plus une éventualité, c'est actée maintenant. La sortie de trois grands pays, qui sont les trois plus gros pays en matière de ressources humaines, d'accord, c'est les trois pays les plus peuplés de la CEDEAO. Cette CEDEAO n'est plus viable.
Il y a le Nigeria qui est là aussi. Hein.
Vous voyez, cette CEDEAO n'est plus viable dans la configuration actuelle avec la sortie du Mali, du Burkina Faso et du Niger.
D'accord. Merci beaucoup, Edem. Oui, merci beaucoup de nous avoir appelé depuis la France. Allô? Allô? 22 21 33 114 91 36 63 75. C'est sur ces deux numéros que vous pouvez facilement réagir hein, dans l'émission Club de la Presse de ce jour. Allô? Allô, bonjour.
Ah, bonjour.
Oui, comment vous allez?
Monsieur Gadou.
Oui, Monsieur Gadou, allez-y.
Oui, vous savez, la CEDEAO n'existe pas. C'est fini avec la CEDEAO.
Mais
vous
comment
savez
ça?
Pourquoi Gowa n'a pas été au rendez-vous? Il a vu qu'on n'a pas convoqué le général Yadema. C'est pourquoi il n'est pas parti. Ils n'ont qu'à tout faire pour convoquer le général Yadema aussi de se présenter là-bas. Comme ça, lui aussi, il va aller. Merci, bonne journée.
Bonne journée, Monsieur Gado, avec votre style. 22 21 33 114 91 36 75. C'est les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Allô? Allô, bonjour.
Bonjour,
oui, bonjour, comment vous allez?
C'est Samuel de Davier.
Samuel, depuis Davier, allez-y.
Ah, je voudrais intervenir à propos de la CEDEAO. En Afrique de l'Ouest, rien n'est souverain. Nos pays ne sont pas souverains. Nos États ne sont pas souverains. La CEDEAO même n'est pas souveraine. Donc, qu'est-ce qui me fait dire ça? On ne respecte rien. La CEDEAO est revenue à la CEDEAO des chefs d'État seulement. C'est la CEDEAO des chefs d'État seuls. Les populations, si on pouvait faire un référendum dans chaque pays de la CEDEAO aujourd'hui, on verrait que toutes les populations sont pour les gens du Sahel, les gens de l'AES. Toutes les gens allaient souhaiter la sortie de la CEDEAO. C'est les présidents seuls qui vont se retrouver, les présidents et les gouvernements, et leur gouvernement qui vont se retrouver dans la CEDEAO. Rien ne marche. On travaille au profit des Européens, au profit de la France. Donc, merci beaucoup.
Bonne continuation. Merci beaucoup, Samuel, et bonne journée. 22 21 33 114. Allô?
Bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Oh, ça va. Ça d'accord. Va, et chez vous?
Ça va aussi, c'est Évangéliste Senghor.
Par la grâce de Dieu. Oui, je m'appelle Ben de Thévier.
Ah, Ben de Thévier.
Oui.
Voilà, je vous ai confondu à Évangéliste. Merci, allez-y.
Merci. Oui, moi aussi, je reviens sur le problème de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est la CEDEAO qui met les conflits dans les pays des membres.
Comment
parce
ça?
Que pourquoi ils ne disent rien pour ils ne condamnaient pas le Togo? La CEDEAO, ils ont signé un combat. Je ne sais pas, que s'il reste 6 mois de faire les élections, ne touchez rien dans la constitution. Mais la CEDEAO a laissé les Togolais. Ils sont en train de patrouiller la constitution. Donc ce qui se passe au Sénégal aussi, c'est la même chose. La CEDEAO laisse la population, on tue la population parce qu'il y a des forces de l'ordre derrière eux. Ce n'est pas bien ça. Donc nous aussi, nous sommes dans le même problème. Parce qu'on ne peut pas être dans deux mois, on monte les cautions à 500 000, de 200 000 à 500 000. La CEDEAO ne dit rien. Or, ils n'ont pas droit à toucher la constitution, de changer les codes électoraux. Je vous remercie.
Merci, merci beaucoup, Ben, pour votre réaction. 22 21 33 74. Allô?
Bonjour.
Oui, bonjour, comment vous allez?
Ça va.
Oui, le nom, c'est?
Monsieur Mauto.
Mauto. Vous nous appelez d'où?
Ma question à monsieur Sylvestre. C'est le Togo qui a plus décrédibilisé la CEDEAO. Pourquoi les journalistes togolais, vous n'en parlez pas?
Pardon, je n'ai pas bien écouté la question.
Je dis,
oui?
C'est le Togo qui a plus décrédibilisé la CEDEAO. Si la CEDEAO n'a plus de valeur aujourd'hui, c'est le Togo.
Oui, mais là c'est votre avis, Mauto.
Pourquoi vous n'en parlez pas?
Oui, mais pourquoi vous voulez qu'on en parle et qu'on soit suivi votre avis, Mauto? Merci beaucoup, Mauto. 22 21 33 114. On va recevoir un dernier auditeur. 22 21 33 114. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Très bien, et chez vous?
Ça va aussi. Le nom, c'est?
C'est Patrick.
Patrick, allez-y.
Pardon, le journaliste s'est régalé toujours avec vous, là.
Oui, oui.
J'ai une petite question pour lui, là.
D'accord.
Mon cher ami, bonjour.
Bonjour.
Ok. Concernant votre pays, le Sénégal, quoi. Je voulais savoir, parce que avant que le président Macky Sall n'accède au pouvoir, ça n'a pas été facile. Il reprochait beaucoup de choses à son prédécesseur. Mais une fois arrivé au pouvoir, on constate que les mêmes erreurs se répètent. Macky Sall, qui était dans l'opposition, faisait tout pour tout. Il parlait à la population l'écoutait. Une fois accédé au pouvoir, on voit que les mêmes erreurs continuent. Sur ce, j'ai deux questions. La première, Macky Sall, qui est un homme intelligent, un homme qui a des idées vraiment pas possibles, qu'est-ce qui s'est passé une fois arrivé à la magistrature suprême? Ça, c'est un. De deux, au niveau de la CEDEAO, je pense que c'est des savants. Il y a Macky Sall, il y a M. Ouattara, ils sont nombreux, qui peuvent quand même donner un autre visage à la CEDEAO dont nous parlons. Mais nous voyons que ceux qui peuvent donner de bons exemples sont plutôt c'est-à-dire le problème de la CEDEAO. Comment vous pouvez analyser ça dit ce problème. Merci.
D'accord, merci beaucoup Patrick pour vos deux questions. Je pense déjà nous allons donner la parole tout de suite à Mamadou Diouf qui va répondre à ces questions. Alors nous revenons au plateau hein, puisque c'est Patrick, c'est le dernier auditeur hein, pour le compte de cette émission. D'abord Sylvestre,
il y avait une question que Mauto, je ne l'ai pas saisie.
Personnellement aussi je n'ai pas saisi la question de Mauto. C'est vrai, il parlait alors du Togo qui a dit discréditer la CEDEAO, je ne sais pas trop là où il veut en venir.
Sinon, je crois que c'était une question. Question. Moi, je voulais véritablement donc lui expliquer en fait les choses, mais
oui, mais il demandait pourquoi les journalistes n'en parlent pas. Donc, personnellement, je n'ai pas saisi le fond de sa question.
Ok, mais je voulais en fait revenir sur le cas de la CEDEAO. Vous savez, déjà en décembre de 2023, il y a l'un des pères fondateurs donc de la CEDEAO, Yacoubou Gone, qui est encore là. Qui a reçu donc le président de la commission de la CEDEAO, monsieur Oumar Ale Touré, et qui lui disait qu'il faudrait quand même qu'on puisse assouplir hein, les sanctions vis-à-vis donc des quatre, en incluant donc la Guinée-Conakry, afin que les choses. Et puis, il avait également exprimé son regret que la CEDEAO ait décidé d'abord d'intervenir militairement hein, au Niger et tout. Vous savez, on aurait pu l'écouter, puisqu'il avait échangé avec le président de la commission, on aurait pu l'écouter qu'en janvier, hein, les trois ne seraient pas partis, puisque, je le dis, c'était en décembre de 2023, et c'est en janvier hein, que ceux-là donc, ont définitivement annoncé leur retrait donc, de la CEDEAO. Aujourd'hui, selon donc les indications, les rumeurs, il paraît qu'il y a donc un prochain sommet de la CEDEAO où on va lever ces sanctions-là. Je crois qu'on l'aurait fait un peu plus tôt, que les trois là ne seraient pas quittés, puisque aujourd'hui c'est vrai qu'ils sont partis, mais et eux et nous, c'est-à-dire ceux qui sont restés, nous allons véritablement en souffrir. Ça, il faut le dire, parce que ils auront des choses que nous devons véritablement aller chercher, et ils auront également besoin de nous. Voyez-vous donc, le mieux c'est de tout faire quand même pour accorder les violons à ce que cela ne
passe pas. Oui, Fabrice.
Oui, sur la CEDEAO, je rebondis un peu sur ce que mon confrère disait tout à l'heure. En réalité, l'alliance du Sahel, cette alliance des États du Sahel, ça ne va pas se passer aussi facilement comme une lettre à la poste, comme on le passait. Ils vont payer un lourd tribut, tout comme aussi les autres pays de la CEDEAO. Mais moi, jusqu'alors, je continue toujours par penser que c'est du chantage. Et ça, tout rentrera dans l'ordre parce que on ne se lève pas comme ça. Mais ils peuvent garder l'alliance. Au sein de la CEDEAO,
il y a... Quoi, vous pensez qu'ils ne sont pas sérieux dans ce qu'ils font?
Non, je dis, ils peuvent pas, ils vont pas quitter la CEDEAO, ils vont revenir. Moi, je le dis. On est ici.
Parole du prophète.
Ils peuvent garder l'alliance. Il y a aussi le conseil de l'entente. C'est toujours dans la CEDEAO. Ils vont garder leur alliance.
Ouais. Il y a même l'humour.
Donc, il y a plusieurs institutions au sein de la CEDEAO. Parce que les conséquences aussi seront très lourdes pour eux s'ils quittent cette CEDEAO. Autant pour ceux qui resteront au sein de la CEDEAO. Mais quand j'écoute le débat de façon générale, et la question des élections, des coups d'État qui reviennent. Quand vous observez, vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est les pays francophones qui foutent le bordel au sein de la CEDEAO. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez presque tous les pays anglophones, l'alternance se passe au Nigeria, ça se passe bien. Au Ghana, ça se passe bien. La dernière fois au Libéria, ça s'est bien passé. C'est les pays. Donc, faudrait pas aussi réduire la CEDEAO à l'espace francophone. Ça aussi, il faut le comprendre. C'est un ensemble qui prend beaucoup de pays, dont le Nigeria, et ça aussi, il faut le corriger. Celui qui disait que les trois pays sont les plus peuplés. Non, les trois même rassemblés n'atteignent pas le Nigeria en termes de population. Donc, c'est une fausse information qui doit corriger chez notre ami qui a appelé de Paris. Et puis, secondo, dans le cas du Togo, en 2005, lorsque la CEDEAO a condamné le Togo, effectivement, ils sont allés loin, fort à démissionner. Fera démissionner, il y a eu un coup de force où l'armée a fait allégeance à Faure Gnassingbé pour qu'il devienne président. Il y a eu une crise pas possible avec des manifestations et les sanctions de la CEDEAO sont tombées. Mais il a démissionné, au moins, et il y a eu des élections. Comment les élections se sont passées, ça c'est un autre débat. Maintenant, on accuse la CEDEAO de ne rien dire dans les coups de force constitutionnels, un peu comme ce qu'on a tenté de faire au niveau du Sénégal. Mais je vois un peu une contradiction aussi dans ceux qui tiennent ce discours-là, parce que les trois pays qui se sont retirés, là, en réalité, c'est des gens qui ont fait un coup d'État, c'est-à-dire qui ont pris les armes. Est-ce que Kabore n'était pas bien élu? Christian Kabore. Est-ce qu'il n'était pas bien élu au Burkina? Il était bien élu. Mais on l'a fait un coup d'État, on l'a mis de côté.
Bazoum était bien élu aussi.
Oui, au Niger, il était bien élu, mais on estime que bon, ils n'ont pas géré une situation et on a fait un coup d'État. Donc, si vous soutenez un coup d'État, reste un coup d'État, qu'il soit constitutionnel ou avec les armes. Donc bon, quand on me dit qu'on ensemble brandir ceux qui l'ont fait avec les armes comme étant les meilleurs, et on condamne ceux qui le font à travers les constitutions. Moi, je dis, les deux sont dans la même boîte. Il faut les condamner.
D'accord.
Donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui, vous voulez être au pouvoir que vous sortez tout un pays. Le Niger, le Burkina, ils ont des fonctionnaires au sein de la CEDEAO dans les mécanismes. C'est pas parce que vous voulez rester au pouvoir que vous allez entraîner le destin de tout un pays en le sortant d'une organisation qui est vieille de 50
ans. Merci beaucoup, Fabrice. Alors, Mamadou Diouf, c'est vrai que vous avez été interpellé. Hein, on vous a posé deux questions. C'est Patrick qui vous a posé ces deux questions. Alors, la première question, c'est par rapport à Macky Sall qui dénonçait un certain nombre de choses chez son prédécesseur Abdoulaye Wade, mais finalement, quand il est venu au pouvoir, il a continué les mêmes choses que Wade faisait.
Mais Macky a fait du Wade, tout simplement. Macky a fait du, comment il s'appelle encore, l'ancien président de la Guinée. Moi j'ai Alpha toujours, j'ai pas été dans un parti politique, mais j'ai toujours été sur le terrain politique. Macky Sall est un grand frère, ils nous ont devancés à l'université de Dakar. Nous, à l'université de Dakar, on s'est battu pour tous les pays, y compris le Togo. Demandez aux étudiants qui étaient à Dakar pendant ces périodes, ils nous connaissent très bien. Mais Macky, c'est quelqu'un qui vient de la gauche et qui vient même à peu près de l'extrême gauche, puisque Macky a d'abord été membre de AJPADS de Landing Savané, avant d'aller au Parti démocratique sénégalais avec le président Abdoulaye Wade. Le problème qu'on a en Afrique, ceux qu'on appelle des hommes d'État, ceux qu'on appelle des hommes politiques, est-ce qu'ils ont une conviction? C'est tout le problème. On a l'impression qu'on est plus en face de personnes qui vont à la conquête du pouvoir pour eux, pour leur groupe, que des gens qui croient à des principes. Et c'est la même chose qui se répercute au niveau de la CEDEAO. Quand on veut être simplement devant, mais les principes, on s'en fout. S'il faut rester, on piétine les principes pour rester. S'il faut accéder, on piétine les principes pour accéder. Mais on fait quoi des principes en ce moment-là? Et c'est là où je suis parfaitement d'accord avec Fabrice. Mais un coup d'État est un coup d'État. Celui qui a parlé de France a dit qu'il faut qu'on applique les règles. Mais les règles de la CEDEAO, c'est que quelqu'un qui fait un coup d'État doit être dénoncé et sanctionné. J'ai dit plusieurs fois, mais il faut que Macky Sall soit sanctionné. Puisque ce qu'il a fait, indiscutablement, ça ne s'appelle pas autrement. Mais pourquoi ça n'a pas été fait? Mais en ce moment, ça devient un club d'amis, comme on le dit, des copains qui sont ensemble et qui cherchent qui on sanctionne, qui on ne sanctionne pas.
D'accord. Et merci beaucoup, Mamadou Diouf. Abbas, 30 secondes pour réagir sur ce que les auditeurs ont dit.
30 secondes. Je ne vais pas faire 30 secondes parce que je voulais appeler à ceux qui
disent. S'il te plaît, allez, vas-y.
Tu as fini même les 30 secondes.
Oui, s'il te plaît, vas-y. Vas-y.
Il parle de qu'on a modifié la constitution. On n'a pas modifié la constitution. La constitution n'a jamais été modifiée à l'orée de ces élections. Il n'y a jamais eu ça. Si je veux parler du code électoral, c'est seulement pour insérer les votes. Nous avons des votes multiples et la répartition des sièges qui a été faite. Pas de modification. Il n'y a jamais eu de modification de loi. Avant les élections.
Et il faut qu'ils lisent bien le protocole de la CEDEAO qui dit que s'il y a consensus, on peut.
D'accord, chers confrères, je pense que nous sommes à la fin de cette émission. Merci beaucoup, hein. Merci Fabrice d'être passé dans cette émission. Sylvestre, merci à toi. Mamadou Diouf, merci. Ça nous a été un grand plaisir de vous avoir reçu dans cette émission. Alors, voilà. Merci beaucoup Abbas d'être passé aussi dans cette émission. C'est l'équipe à l'heure de mercredi. Alors, Michel Tomega, merci à toi. Et Géraud Akuta, merci également à toi pour la mise en ligne de cette émission. Vous pouvez retrouver même d'ailleurs cette émission sur nos différentes plateformes digitales. C'est la fin de cette émission. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Club de la Presse. Je suis Pascal Lossou. Au revoir.